Dans le cadre de Vinapogé 2024, nous vous présentons un atelier intitulé Les vins corses, ça vieillit? Nicolas Stromboni, grand amoureux et ambassadeur de son île, fondateur du Chemin des Vignobles, prouve qu'un vin corse, ça vieillit. Il fait déguster Chiesanera de Manu Venturi, Granit de Gérard Courrèges, du Muscat de Pieretti, Taradraz d'Yves Canarel et enfin Clossignador.
Vinapogé, ça ressemble à un salon comme au 19e où on peut aller de droite et de gauche. Et alors il a dit, mais quand même, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les vins corses, parce qu'on nous dit toujours, les vins corses, ça vieillit pas. Et évidemment, nous, on sait que c'est faux. Et donc, bah, voilà, de la parole à l'acte, et aujourd'hui, il est là pour nous le prouver.
Ouais,
Voilà.
bonjour à tous et à
Merci,
toutes.
Nicolas.
Attends, je suis pas fini, j'ai un petit mot pour toi.
Ah bon?
C'est vrai que c'est un beau salon. À titre perso, je vais assez peu sur les salons parce que je trouve qu'on ne rencontre pas tout à fait les vignerons et ce qu'ils ont vraiment à nous dire. Et David et son équipe ont créé un salon où il y a une vraie intimité, une vraie proximité. D'ailleurs, on n'est pas très nombreux, on peut tchâcher, aller venir, prendre son temps. Et puis les conférences sont vraiment de qualité, on y apprend plein de choses, plein de choses. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur, bien évidemment, en tout cas dans la dynamique le plus possible. Mais c'est un joli moment de partage, ce salon. Et puis, des moments confidentiels comme ça, ben, c'est toujours chouette à vivre. Donc, moi, je suis très content d'être avec vous. Et j'espère que tu me réinviteras l'année prochaine, parce que je
Oui,
serai avec grand plaisir. Voilà.
c'est promis.
Alors, je suis caviste à Ajaccio. J'ai fait mon métier de caviste. J'ai fait mon métier de caviste un peu par hasard. Je ne suis pas du tout issu du sérail. Et je suis arrivé dans le vin un peu par hasard, presque, parce que je me suis aperçu finalement il n'y a pas très longtemps que j'ai eu une première vie où j'étais vigneron jusqu'à 18 ans dans la vigne familiale qu'on m'a goûté tout à l'heure, qui est une vigne un peu particulière. C'était une vigne où j'ai pioché pendant des années, taillé. C'est une vigne qu'on a toujours pioché à la main. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai été en âge de faire des choix, c'est que je me suis barré. Je me suis dit, je ne remettrai jamais les pieds dans le monde du vin. Bon, voilà. Mauvaise pioche, échec ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas démarré par le bon truc. Voilà. Mon père piochait une vigne qui était géniale, qui était une vigne qui est préphylloxérique, qui a 160 ans. Mais à l'époque, on ne valorisait pas beaucoup le vin. Les vieux cépages, on ne savait pas ce que c'était. Le terroir, la qualité des vins, c'était encore en pointillé. Et puis finalement, je suis resté dans le vin. Je suis rentré par une autre porte et j'y suis resté. Je m'y suis senti bien parce que c'est un monde où on rencontre des gens. C'est un monde riche, c'est un monde qui est un monde de connexion avec plein de disciplines, avec l'histoire, la sociologie, la géologie, l'ethnographie. Enfin bon. Il y a plein plein de il y a plein de il y a autant de connexions qu'on peut imaginer de disciplines et c'est ça qui m'intéresse dans le vin. Et donc quand je suis rentré dans ce monde-là, je suis rentré non pas par le monde de la vente, par le monde du consommateur, mais par le monde de la production. Et j'ai passé plus de temps, et je passe encore plus de temps aujourd'hui, à essayer de comprendre comment fonctionne un terroir, un vin, un cépage, une mécanique, une appréhension, plutôt que d'essayer de vendre des bouteilles dans ma boutique, parce que partant du principe que quand on est capable d'élaborer des choses bonnes, de les comprendre, on est capable de les expliquer, et donc on est capable de les vendre. Et finalement, la vente n'est qu'une résultante de tout ce processus. Et c'est de ça dont on va parler, si vous êtes d'accord. OK? On est bon? Parfait. Avant de déguster, deux, trois mots sur la Corse. Alors d'habitude, j'aime bien prendre mon temps quand on fait cette intervention-là. Je la fais plutôt en 2 heures, 2 heures et demie. Donc 1 heure, ça va être un format un peu contraint. Donc je vais essayer d'être moins bavard que d'ordinaire. La Corse, vous connaissez tous, j'imagine. On dit de la Corse que c'est une île, qu'elle a une, que l'influence de la mer y est très très forte. Mais on pourrait dire aussi que la Corse est une grande montagne qui occupe 90% du territoire. Et donc, quand dans un espace, vous avez 90% du territoire qui est occupé par une montagne, on peut dire aussi que l'influence de la montagne va être extrêmement forte, ce qui sera le cas en Corse. Donc, on pourrait dire que globalement, la Corse est 3 niveaux, 4 niveaux. Premier niveau, c'est que on a un sol qui s'est formé de la réunion d'une partie des Alpes italiennes et d'une partie du massif Estérel français. Et quand cette Corse s'est formée, plein de sols se sont mélangés, agrégés, fusionnés. Il s'est passé plein de choses en sous-sol. Et ce qui nous passionne en ce moment encore, c'est finalement presque ce voyage dans la terre, qu'on retranscrit avec le vin, mais c'est ce voyage dans la terre. Ce qu'on explore en ce moment, c'est ça. On essaie de comprendre un peu comment ces sols ultra complexes se sont formés. Pour l'instant, on essaye de comprendre, parce qu'on n'a toujours rien compris. Ce qu'on sait, c'est quand on gratte, on trouve plein de choses très différentes, avec plein d'époques superposées. Donc on a plus l'impression parfois d'être des archéologues du vin que des vinificateurs, des vignerons ou des acteurs. Et donc mais ce sol, c'est une nourriture. Et donc l'idée, le job de n'importe quel vigneron, c'est de planter de la vigne et que cette vigne aille chercher des informations dans le sol, que ces informations, on les retranscrive dans la baie de raisin et à partir de la baie de raisin, qu'on pourrait considérer comme un négatif photo, hein, il y a des informations et ces informations, on va venir les développer. D'accord ? Et donc, pour que ce processus s'engage, il faut qu'on permette à la racine, nous, hommes, hein, de rendre un espace vivant, un matériel végétal confortable pour que ce matériel ait envie d'aller chercher de l'information. Cette information, il va la stocker dans le grain de raisin. Et à partir de là, il va se passer des choses. Alors, nous, vous savez qu'en Corse, il fait très chaud. Donc, dans la journée, cette information, elle va être activée, hein, par cette chaleur. On va avoir une énergie végétale très très forte. Et à partir de là, c'est comme en cuisine. Quand vous cuisinez, en fait, on utilise deux choses. On utilise le chaud pour transformer, d'accord ? Donc c'est de la chimie, quelque chose en quelque chose d'autre. Et on utilise le froid, c'est-à-dire on stoppe la cuisson pour garder intacte une information. Hein, une viande que vous mangez bleue, par exemple, vous allez la chauffer, puis vous allez la retirer un moment, parce que si vous la retirez pas, ben, la viande va se dégrader jusqu'à être complètement carbonisée. Et donc, dans la vigne en Corse, il se passe exactement la même chose. Dans la journée, ça rôtit, et le soir, grâce à ce grand froid de cette montagne donc, qui occupe 90% du territoire, on va stopper la cuisson, de manière à garder dans cette baie de raisin les informations intactes, donc les informations minérales, l'énergie, le goût, la saveur, la tonicité, tout ce qui fait, les facettes d'un joli vin. Donc, premier étage du raisonnement, un sol très riche. Deuxième étage du raisonnement, cette montagne qui va donc garder intacte l'information. Troisième étage du raisonnement, c'est que pour aller chercher cette information, il faut des cépages. Les cépages, on va les classer en deux catégories, les cépages principaux et les cépages secondaires. On dit d'un cépage principal qu'il est capable de lire la totalité d'un sol, quand un cépage secondaire va en lire qu'une seule partie. Et nous, donc, on va utiliser en Corse, historiquement, des cépages principaux, des cépages secondaires. Donc le cépage principal va faire l'ossature, et les cépages secondaires vont venir compléter l'information. Des cépages principaux, on en a trois. On a deux cépages rouges, un qui s'appelle le Nieluccio, qui nous vient d'Italie. Nieluccio, niel, ça veut dire sombre. Et l'autre, le Ciaccarello, qui nous vient aussi d'Italie à une autre époque. Et qu'on pourrait, Anne-Claude Lefleve disait de ce cépage-là, c'est le pinot noir sauvage de la Corse. Ça peut vous faire penser, ça fait penser, notamment quand ça vieillit, ça a des accents de pinot noir de Bourgogne. Et c'est un cépage qui nous ravit beaucoup. Donc on a deux cépages rouges et un cépage blanc. Ce cépage blanc, c'est le Vermentino. Le Vermentino, il nous vient du Péloponnèse. Il a colonisé toute la Méditerranée, mais il se trouve qu'en Corse, il est en symbiose totale. Et nous, ce qui nous plaît, c'est pas tant que le cépage soit endémique, c'est que le cépage et le lieu se rencontrent et soient capables de créer des choses. On a une plante que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'immortelle, l'hélichrysome. L'immortelle, elle développe en Corse des propriétés pharmacologiques, cosmétologiques, oncologiques. Cette même immortelle, vous la déracinez, vous la mettez en Ligurie, vous la mettez à Aix, vous la mettez où vous voulez, elle développe plus ses propriétés. Donc il y a bien un espace de symbiose entre deux êtres vivants, un environnement et un cépage. D'accord ? Des cépages en Corse, on en compte 30, donc trois principaux, 27 secondaires pour l'instant, et puis on en découvre tous les jours. Et tout ça, c'est une histoire qui s'écrit au fil du temps. Je n'aurais pas été capable de vous livrer les mêmes informations il y a 4 ans, et j'espère que dans 4 ou 5 ans, je vous en livrerai bien d'autres, parce que ce qui est marrant dans ce vignoble-là, comme dans d'autres, c'est le mouvement, le rythme, la quête, la recherche, ce qu'on trouve, et puis tout ce qu'on a trouvé. Un sommelier que vous connaissez de nom, maintenant son nom m'échappe, Antoine, tu vas m'aider. Italien. Enrico Bernardo, merci. Enrico disait, en Corse, vous avez une chance inouïe, c'est que parfois quand les hommes vont chercher l'or, font cette conquête très lointaine, ils vont à 10 000 km de chez eux, ils bravent toutes les tempêtes. Il dit, vous, en Corse, vous avez un Eldorado à vos pieds. Donc non seulement vous êtes fainéant, mais en plus vous êtes verni. Donc je pense qu'il a, il a pas tort. Dernier étage du raisonnement, après les terroirs, les cépages et la montagne. Comme on est un vignoble qui est très vieux mais très jeune, on s'est autorisé finalement à vinifier, à essayer de comprendre nos terroirs avec plein d'ustensiles différents. Quand vous rentrez dans une cave en Corse, vous avez du bois, de la terre, du verre, de l'inox, plein de matériaux. C'est comme quand vous rentrez dans la cuisine d'un chef, vous avez des casseroles, des poêles, des wok, des barbecues. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on reste sur le thème de la cuisine, c'est assez simple, c'est que si on cuisine une côte de veau au sautoir, en cocotte, au four, au barbecue, elle n'aura pas le même goût. Et donc ce qu'on peut entendre en cuisine est vrai dans le vin, c'est que quand on cuisine un cépage, hein, quand on vinifie, quand on le cuisine, quand on va l'exprimer quelque chose, on va le transformer, on va utiliser plusieurs contenants différents pour essayer de voir quelle est la direction la mieux appropriée à ce cépage et à ce sol. Donc en le disant différemment, on s'interdit rien, on n'a pas de carcan, et donc du coup, ben, ça nous fait peut-être passer un peu de temps, ça nous fait partir dans plein de directions, ça fait dire à mes clients qui rentrent dans ma boutique, je ne comprends plus rien en vin corse, il y en a trop. Ben nous, on dit que c'est un vignoble qui est en pleine vitalité. On leur dit de profiter maintenant parce que demain, il y en aura le double. Parce que des cuvées en préparation, il y en a plein. Parce qu'on a plein de terroirs différents, on a plein de choses à raconter et qu'on ne s'en prive pas. Voilà, pour le petit pitch, c'est essayer d'être rapide. Je ne sais pas si j'ai été concis et audible, mais en tout cas, voilà, pour vous ayez un petit peu le démarrage. On va démarrer par le Chiesaner. Alors, on va démarrer par un vin d'un domaine qui est présent sur le salon, qui est Clos Vintour. Clos Vintour, c'est un domaine un peu particulier qui se trouve en centre Corse. C'est le seul domaine qui n'a pas de façade maritime, qui est dans une cuvette. Il fait très chaud dans la journée et le soir, il fait très froid. Or, il gèle tous les ans. C'est un paysage assez spectaculaire. C'est un paysage très extrême. Faire des vins là-dedans, il faut un peu de folie, un peu d'engagement. Il faut y croire, mais c'est un grand terroir. Et pourquoi c'est un grand terroir? Parce que quand les deux parties qui ont formé la Corse se sont rejointes. La partie italienne a poussé la partie française et à un moment donné, il y a eu une inversion de sol. C'est-à-dire que les sols vieux qui étaient dessous ont été bousculés et cette petite colline en fait a été totalement renversée. Et donc la vigne qui va s'y trouver va goûter des éléments qu'elle ne pourrait pas goûter. Ce sont des éléments qui sont à plus de 30 mètres de profondeur. C'est une colline qui fait 30 mètres. Donc si on inverse ces 30 mètres, eh bien, la vigne va pouvoir manger, se nourrir de quelque chose d'un peu particulier. J'ai choisi cette bouteille parce qu'elle retrace ce qu'était la Corse d'avant. La Corse d'avant, c'était dans une même vigne, plein de cépages qui avaient été pris grâce aux rencontres, grâce aux voyages, grâce aux échanges. Et les vignes, elles étaient toujours complantées. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait vivre tous les cépages ensemble dans un même espace et les cépages allaient apprendre à se connaître avant de vivre en bouteille. Et donc dans cette bouteille-là, vous avez 8 cépages rouges et un cépage blanc. Et le cépage blanc, il va jouer le rôle de liant. Et quand vous cuisinez, moi j'utilise beaucoup d'images de la cuisine, c'est des choses qui sont faciles à comprendre. Quand vous cuisinez, quand vous singez une sauce, quand vous mettez de la farine, c'est ce qui va lier l'ensemble. Et donc, on a fait cette cuvée avec blanc et sans blanc. Quand vous la faites sans blanc, il y a plein d'aspérités. Le blanc aidant, toutes ces aspérités ne forment qu'un tout. Et ce qui est intéressant dans cette cuvée, au-delà du goût, au-delà de la texture des vins, c'est cette aromatique. Chaque cépage va, toutes les 10, 15, 20 secondes, en tout cas par petite période, venir réagir et donc vous allez passer d'arômes de terre, d'arômes de fruits, des arômes de plantes, des arômes de fleurs séchées, des notes empyrématiques, donc des notes de fumée et puis ça va bouger. Voilà, c'est un vin qui est rigolo, très sérieux, mais rigolo parce qu'en fait il peut, en fonction des cultures de chacun, vous emmener dans vos propres directions. Et on a un tout petit peu dérogé à la règle, puisque ce n'est pas un 2014, c'est un 2016. On s'est fait attaquer par les Provençaux quand on envoyait les vins. Je pense qu'il y a des espions de Sud-Ex qui nous ont stoppé la marchandise pour pas qu'on vous présente un vin à pleine maturité. Alors bien sûr, quand on parle rouge corse, on s'attend à des choses avec beaucoup d'alcool, avec beaucoup de tanins, avec beaucoup de poitrine. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous dire que la Corse, c'est d'abord un vignoble de montagne. Oui, c'est au sud, c'est vrai, mais c'est d'abord un vignoble de montagne avec les caractéristiques d'un vignoble de montagne. C'est un vignoble de grand terroir, c'est un vignoble méditerranéen avec plein de cépages. Et tous ces éléments vont jouer le jeu d'une même direction, des choses qui sont fraîches, des choses qui sont délicates, des choses qui sont profondes, des choses qui sont inattendues. Parce qu'on a malheureusement l'habitude de lire la carte de France du nord au sud. Tout ce qui est au nord, c'est plus acidulé, plus frais, plus tendu. Tout ce qui est au sud, c'est plus robuste, plus alcooleux, plus tannique. Bon, vrai, pas vrai. Aujourd'hui, je crois que le monde change. Hein, tous les vignerons ont prouvé que dans tous les terroirs, on pouvait partir dans plein de directions différentes et que la notion de terroir, elle était plutôt alliée à la notion de micro-terroir et qu'en Corse, on n'échappe pas à cette règle-là. Et la montagne nous aidant, et si on s'est vinifié un petit peu, écouter ce que le terroir a à nous dire, on va plutôt sur des choses délicates, fraîches, dynamiques, onctueuses, mais pas pâteuses, pas lourdes, pas trop riches. En tout cas, ça c'est ma promesse. Qu'est-ce qui veut intervenir sur ce premier vin ? Vous battez pas, c'est pas la peine, j'entends pas dans cette cacophonie ambiante. Je suis en désigné un au hasard, donc, monsieur. Eh bien, c'est pas grave, ça tombe bien. Nous non plus, on n'y connaît pas grand-chose, je sais pas. Moi, je dis à mes équipes dans la cave, méfiez-vous de ceux qui rentrent dans la boutique qui vous disent « je connaisse le vin ». Parce que la seule chose qu'on peut dire quand on approche le vin, c'est que on peut, en essayant d'appréhender des choses, s'éloigner de l'ignorance, mais on ne se rapproche pas pour autant de la connaissance. Donc, je vous écoute. Bah, est-ce qu'il vous plaît déjà ?
Oui.
Bah, c'est déjà bien. Allez, un point.
Vous parliez de tanin léger, délicat, oui, je trouve ça.
Ok.
La fraîcheur, je ne sais pas exactement, mais c'est agréable, très agréable.
Fraîcheur, ça veut dire plein de choses, hein ?
Oui.
Ça veut dire, est-ce qu'on a envie d'en reboire ? Est-ce que ça nous fait saliver ? Est-ce qu'il y a ce côté croquant, acidulé ? Est-ce qu'on a ce fruit frais qui fait qu'on a envie de revenir dans la bouteille ? Est-ce qu'on a envie de mordre ? Est-ce que c'est un vin qui nous fatigue ? Est-ce que c'est un vin qui nous apaise ? Est-ce que c'est un vin qui nous donne envie de manger, de boire, de continuer ? C'est ça ? Est-ce que c'est un vin qui est équilibré ? Est-ce que c'est un vin qui vous semble harmonieux ? Enfin, ça, c'est des notions qui vous sont personnelles. Ce n'est pas des notions techniques. C'est est-ce qu'aujourd'hui, ben, ce vin-là, vous avez envie de le partager ? Est-ce que vous avez envie de l'écouter pour qu'il vous raconte son histoire ? Est-ce que vous avez envie de le mettre en cave ? Est-ce que vous avez envie de l'associer à un aliment ? C'est des questions comme ça que vous pouvez vous poser quand vous goûtez du vin. Après, la partie technique, il faut la laisser aux techniciens. Et on n'est pas là pour parler de technique, dans la direction. Bon, vous ne direz pas à David qu'on a un 2016. Normalement, c'est tout à fait interdit. On a des vins à maturité. C'est au moins des vins décalés de 10 ans, mais le piratage ne nous aidant pas. Grani 2011, s'il vous plaît. Le vin suivant... On descend dans la région d'Ajaccio, donc Ajaccio, on est sur la partie ouest de la Corse, chez un vigneron sympathique, qui est le vigneron aujourd'hui le plus demandé en Corse, c'est Gérard Courrèges. Le domaine, c'est Vacelli avec la cuvée Granit. On est sur un terroir qui est plus simple que le terroir dont on parlait avant. On est plus simple en apparence, mais pas tant que ça. On est sur un vignoble de Piémont, donc on est appuyé à une montagne, on fait face à la mer, et donc là on va être vraiment sur les deux influences, montagne et marine, et on est uniquement sur un seul cépage, c'est le Chacarello. Et si vous mettez le nez dans ce verre-là, en faisant abstraction de la Corse, du cépage, du moment qu'on vit, vous allez voir qu'il va peut-être vous raconter des accents d'autres régions. Pourquoi est-ce qu'on compare à la Bourgogne ? On ne devrait peut-être pas le faire, mais déjà parce qu'on aime la Bourgogne et que c'est le style de vin qu'on boit assez volontiers chez nous, mais surtout parce qu'il a hérité des comportements du Pinot Noir dans la délicatesse, le croquant, la fraîcheur. C'est un cépage qui est très peu tannique. Chacarello, ça veut dire qui éclate sous les doigts. Donc c'est quand on cueille cette baie, la peau est tellement fine que le raisin nous éclate sous les doigts. Et donc vous savez que les tanins sont en partie contenus dans la peau, et plus la peau est fine, moins il y a de tanins, ce qui est le cas de ce cépage-là. Comment est-ce qu'on le reconnaît quand on fait une dégustation à l'aveugle ? Ben vous mettez, si je veux bien me permettre, vous mettez votre doigt derrière. Ouais, quand vous voyez votre doigt, généralement, chez nous, c'est du Chacarello. Personnellement, j'aime bien servir ces vins-là, à une température peut-être un tout petit peu en dessous de leur température de consommation. Pourquoi ? Parce que c'est des vins qui ont besoin d'être aidés par cette température, c'est des vins de vitalité. Vous avez vu, c'est un cépage qui est marrant parce que c'est un cépage qui est très acidulé. Et là, pendant que je vous parle, mais il se passe dans toutes les bouches la même chose, c'est que la partie avant de la langue, vous êtes en train de saliver. On dit que le chacaril, c'est la framboise, le pépin de framboise, ce pépin qu'on croque, qui est très acidulé, qui nous donne envie de reboire. Il y a un vieux vigneron qui est décédé qui disait, en parlant de ce cépage-là, il disait « jamais ne fatigue ni ne lasse ». Aujourd'hui, on appelle ça des vins glouglou, mais c'est quand même moins sympa que « jamais ne fatigue ni ne lasse », c'est quand même plus poétique. Voilà. Ce sont des vins, le chacaril, c'est un cépage qui est très intéressant parce qu'on peut le boire jeune, moins jeune, vieux, très vieux. On a fait avec des journalistes il y a 2 ans, une rétrospective sur 79-2019, donc les capacités du chacaril à aller dans le temps. C'est assez bluffant parce que ça garde toujours cette direction. Ça naît maigrelet comme ça, ça naît un petit peu fin et ça vit fin, ça vit svelte, ça vit dépouillé. La couleur, on est toujours un tout petit peu atone au début et puis ça reste comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et puis ça prend, voilà, ça se colore, c'est un cépage qui se colore assez bien du paysage aromatique. Hein, ça peut sentir le myrte, ça sent le lentisque, ça sent toute la richesse aromatique qu'on peut avoir en Corse. Ça se départit jamais de ce côté cerise, noyau de cerise, pépins de framboise. Et ça garde toujours cette belle vivacité, cette belle tonicité. Est-ce que quelqu'un a une idée du degré d'alcool là-dedans ? Au hasard.
Mais je m'en fiche.
Exactement. Ce n'est pas la question. Pourquoi ? Parce que l'alcool, c'est forcément un support. S'il n'y a pas d'alcool dans le vin, ça ne serait pas du vin. Et donc l'idée, c'est de savoir si l'alcool est intégré dans un rythme, dans une harmonie ou pas. Personnellement, c'est oui. Voilà. On est à 14,5. Et vous allez voir que quand c'est bien fait, dans n'importe quel terroir, la notion d'alcool, elle est secondaire. À partir du moment où vous vous posez la question, c'est peut-être déjà un peu tard. C'est peut-être qu'il y a un déséquilibre. Et le job d'un vigneron, comme le job d'un cuisinier, c'est forcément trouver quelque chose qui vous fasse plaisir. Et ce qui vous fait plaisir généralement, de manière instinctive, c'est des choses qui sont harmonieuses. Hein, un joli sandwich jambon-beurre, quand on a un joli beurre, un pain, un jambon de qualité.
Après, c'est assez surprenant. Hein. Bien sûr, on ne sent pas le degré d'alcool, dans l'absolu, hein. Il peut être relevé, mais il fait, voilà, première bouche, il n'est pas trop agressif, donc c'est plutôt une belle chose.
Antoine, un vigneron que tu aimes bien.
Moi, il ne fallait pas m'interroger parce qu'en fait, il ne le sait pas, mais il a fait une présentation très courte. Mais ce jeune homme en face, c'est un très grand écrivain. Il a fait un ouvrage assez merveilleux. Je ne suis pas son attaché de presse.
Pas encore, pas aujourd'hui.
Il a une carte fabuleuse et moi, ce qui me plaît dans tout sommelier, en fait, comme on est en petit comité qui n'a pas de caméra, la différence entre Dieu et un sommelier, est-ce que vous la connaissez ? C'est que Dieu ne se prend pas pour un sommelier. La chance d'avoir un Nicolas, pas mal. Elle marche à chaque fois.
La chance
d'avoir un Nicolas, c'est que sur une région qui est pour nous continentaux tellement particulière, complexe, en bon sens, dans sa diversité, c'est d'avoir des ambassadeurs. Et moi, je considère que le sommelier, en dehors de tout ce qu'il peut faire en service dans une salle de restaurant ou le caviste, c'est de savoir parler de son lieu, de son entité, des femmes et des hommes qui transforme les vins de cette île à peu près magique. Moi, je l'ai découvert, entre autres grâce à lui. Et je voulais en remercier, puisqu'il devait faire une introduction très courte. Moi, ce qui me plaît dans ce cépage, c'est qu'il est aussi puissant que fin. Il est aussi généreux qu'acide. Et c'est vrai que ce que tu disais très bien au début, on a l'impression, lorsqu'on goûte sur un millésime jeune en élevage, il peut être un peu chétif, un peu atone, comme le disait très bien Nicolas. Et c'est la capacité qu'a le vin à évoluer, à prendre en couleur, en densité, en structure, en profondeur. Et c'est ce qui montre d'un côté le génie de la Corse et d'un vigneron comme Gérard, que Nicolas connaît également très bien, dans sa capacité à le magnifier. Moi, j'aime pas les vins de menuisier Castorama. C'est-à-dire que quand on sent plus le bois et qu'on se pose la question de l'élevage comme de l'alcool tout à l'heure, c'est raté. Pour moi, là, c'est juste une infusion en fait, de son terroir. C'est la symbiose en fait, entre les deux. L'homme, forcément, son terroir et ses pages.
Magnifique, merci.
Comme ça, tu m'interroges plus.
Merci. Moi, comme tu ne vas pas redire 2 fois la même chose, je peux encore t'interroger. Voilà.
Dans 5 ans,
Alors, dans 5 ans, celui-ci, j'en sais rien, parce que en fait, il fait la cuvée granit depuis le millésime 2008. En revanche, on a goûté des chacarils de 79, 80, 79 qui n'est pas un gros millésime, 80 encore moins, qui sont splendides, pardon, 79, 80, 81, qui est une trilogie magique chez nous. On fait une dégustation comme ça de Chacarello avec des vignerons et on goûte un vin d'un domaine qui s'appelle Capitoro, qui est Ajaccio. Et c'était un Capitoro 75. Et il y a un des vignerons corse qui était là, qui a une belle phrase et qui dit « J'eusse aimé que ce vin-là soit corse, mais je sais qu'on n'est pas capable de faire des vins de cette dimension-là. » Parce que nous-mêmes, on n'est pas tout à fait encore conscients de ce que le terroir peut nous amener. Et en fait, c'était un Clos Capitoro 75. Donc, ces vins de Chacarille, quand ils sont bien faits, sont des vins d'équilibre. Voilà. Ce qui doit qualifier ce type de vin-là, c'est l'équilibre. L'équilibre aromatique, l'équilibre acide. Et puis, le plaisir que ça donne, quoi. Vous mettez le nez là-dessus, c'est instinctivement, ça fait plaisir. C'est des vins qu'on a envie de partager, c'est des vins qu'on a envie d'essayer sur plein de plats. En termes d'accord, ça marche très bien sur des produits de la terre, mais ça marche très bien sur des produits marins, ça marche sur des soupes de poisson, ça marche sur des bisques, ça marche sur de l'oursin. D'accord, c'est des vins qui ont cette capacité extrêmement large à se rendre copains avec plein de plats. Et ça, c'est chouette. On va enchaîner sur le troisième rouge, s'il vous plaît. Et pour le troisième rouge, on va passer à l'autre grand cépage corse, donc qui est donc le Sangiovese en Toscane, qui est arrivé en Corse au XVIe siècle, quand le Chacarello, lui, est arrivé par les Génois au XIVe siècle. Donc, on pourrait dire que le Chacarello a un petit cousin en Toscane qui s'appelle le Mammolo, mais c'est un cousin qui est très éloigné puisqu'il était parent au XIVe siècle. On peut dire la même chose de ce cépage Nieluccio qui a un cousin en Toscane qui s'appelle le Sangiovese, mais ayant quitté la Toscane au XVIe siècle, depuis il a eu le temps d'avoir quelques errements dans nos terroirs et donc de se fixer à sa manière sur la Corse. On est chez un vigneron qui s'appelle Christophe Ferrandis. Le clos, c'est le clos Signador. C'est un vigneron qui a un sens du vin très, très particulier. Il vinifie dans des conditions épouvantables. C'est une petite maisonnette de berger dans laquelle il a quelques fûts. Et c'est un mec qui a le sens du vin, voilà, qui a le sens de la maturité. Christophe a fait ses armes. Il est marseillais d'origine. Il a fait ses armes chez Pibarnon. Il est arrivé en Corse en 2000 et souvent on pose la question, est-ce que quand on est étranger à la Corse, on peut acheter des choses? Est-ce qu'on peut s'insérer? Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut être un jour baptisé Corse? Bon, c'est comme la question de l'alcool, ça ne se pose pas. Voilà, ça s'entend. Vous savez, cette notion de symbiose dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu comme les gens. Les gens arrivent dans un territoire, ils vont se sentir bien, ils vont faire souche, ils vont vouloir construire une maison, s'enraciner, fonder une famille. Puis après, vous avez des gens qui arrivent dans un territoire et qui viennent, qui repartent, qui ont quelques amis, mais qui ne se fixent pas. Et puis, il y a des gens qui arrivent dans un territoire, le territoire leur est hostile, ils sont hostiles au territoire et il n'y a rien qui se passe. Et la Corse, et les cépages corses, et ce qu'est un Corse, moi j'aime bien l'envisager comme ça. C'est, est-ce qu'on est aujourd'hui capable, dans n'importe quel territoire, d'être en symbiose, de le comprendre, de donner, de recevoir, ou pas, ou peu. Et donc Christophe, c'est un mec Christophe Ferrandis, qui est un... On va dire qu'on le qualifierait plutôt de grande gueule. Et il a essayé de dompter un cépage qui lui-même est grande gueule, avec des moyens assez spartiates. Et comme c'est quelqu'un qui a un sens humain, un sens affectif, un sens des choses, il arrive à faire avec ce cépage qui est rude, tannique, avec parfois des problèmes de maturité, ce que vous voulez. Le meilleur des deux, s'il vous plaît. Merci. Il arrive à le civiliser, à faire des choses glissantes, gourmandes, onctueuses, pleines, rassasiantes, roboratives, mais toujours en gardant cet éclat, cette fraîcheur, cette dynamique qu'on doit attendre d'un vin qui interprète bien son terroir chez nous. Donc voilà, vous le remarquez, physionomie de bouche très différente, hein. On est sur d'autres types de sols, on est sur des argiles, des calcaires à patrimoniaux. Donc on a un vin qui est plus enrobant, qui va vous chercher sur toute la bouche, avec une texture presque sucrante. C'est un vin qui est tout à fait sec, mais texture presque sucrante. On a un vin qui a plus de poitrine, plus de chair, plus de corps. Et là, vous voyez très bien que finalement, dans nos deux cépages, les deux sont opposés. Hein, on en a un qui est longiligne, svelte, et qui est un coureur de 100 mètres. Et là, on a un coureur de fond qui est plus robuste, plus trapu, plus généreux. Et avec ça, avec la complexité des terroirs, avec les casseroles qu'on a pour cuisiner tout ça, on invente et on chemine sur ce petit monde qui est en éternel recommencement. Un petit commentaire sur ce vin-là, s'il vous plaît. Ouais, vous saviez que vous alliez y passer, hein, dites. Est-ce qu'il va me voir? Est-ce qu'il... Oui, je vous ai vu.
Il ne m'a pas vu.
Ben oui.
C'est moins mon goût que le précédent. C'est très ample, malgré l'âge.
Ouais.
Malgré les années, je trouve que c'est encore très présent, c'est encore assez tannique. Après, on a toujours ces arômes de garrigue, de plantes sauvages qu'on retrouve sur les autres vins. On sent qu'il y a encore beaucoup de matière, beaucoup de
couleurs.
Ça peut encore.
On sent que, voilà, qu'il a encore besoin de souffler. Ouais. Alors, ce qui est bien, puisque je m'appuie sur ce que vous venez de dire, ce qui est bien encore, c'est qu'on a un panel tellement riche, tellement large de vins, que quand les gens me rentrent dans ma boutique, me disent j'aime le vin corse. Ben, c'est pas ça, j'espère que c'est possible, mais de quel, lequel? Lequel? C'est que je rentre dans une boutique de fromage et j'aime les fromages, parfait. Lequel? Donc on a la chance d'avoir une panoplie extrêmement large, donc je sais par expérience qu'il y a des vins qui vont vous plaire, des vins qui vont vous heurter, des vins qui vont pas résonner et d'autres avec lesquels ça va coller. Ça c'est normal, c'est la Corse, c'est aussi, je dirais, la qualité de tous les vignobles qui ont une grande diversité. L'idée c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de vous montrer finalement sur un curseur de quel point on va, jusqu'à quel point on peut aller. Okay. Alors ça, c'est pour moi plutôt un vin de cuisine confite, mijotée, jarret confit, poitrine, les polpettes, les petites boulettes, la saucisse de foie qu'on a, le figatel. C'est des vins qui vont sur des cuisines réconfortantes, des choses, des parmentiers, du canard, des choses qui ont besoin de temps, un peu comme ce cépage-là, qui jeûne pour moi est toujours un peu plus compliqué à appréhender, mais voilà, c'est des vins qui sont nourrissants. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un commentaire désagréable, comme madame? Non, je plaisante. Non, mais je plaisante, je vous taquine. Très sincèrement, aujourd'hui, il y a un vrai public pour le Tchacarel. Il y a un public pour le Nielouch qui est moins nombreux parce que ce sont des vins qui sont malheureusement moins contemporains. Et c'est dommage parce qu'on envisage toujours le vin pour ce qu'il est. Or, le vin, pour moi, sa place, c'est à table. Voilà. Et la fonction que va remplir le Tchacarel ne sera pas remplie par la fonction que remplira le Nielouch. Voilà. Tchacarel, plutôt cuisine courte, enfin des cuissons courtes, des choses parfois même crues. Là, on est sur des cuissons lentes, donc on est sur un autre type de cuisine, on est sur un autre rapport au temps. On va passer au blanc, ouais. Alors, si vous le voulez bien, on va changer de... Je sais pas, qui est-ce qui peut me donner l'heure?
16h38.
Il va falloir que je fasse vite. Il va falloir que vous m'aidiez à accélérer. Si je vous demande si c'est bon, vous dites que c'est bon, et puis voilà. On n'a pas besoin d'étaler.
Ce que j'apprécie, moi, avec ce vin, c'est que la surprise, c'est quand on le goûte,
ouais.
Dès qu'il arrive sur la langue, c'est plutôt un peu... agressif.
Ouais.
Et on s'attend à quelque chose qui va être
cognant,
lourd.
Ouais.
Et puis là, ça s'adoucit et ça devient.
Et il a un rebond. Et il a un vrai rebond, ce vin. Il renaît sous une autre forme, hein, avec une vitalité en fin de bouche qui est assez géniale. Il y a un fruit qui est éclatant. Après, encore une fois, quand vous goûtez un vin, quel qu'il soit, quand vous faites une dégustation, il y a quelque chose qui est compliqué à appréhender, c'est que on raisonne toujours avec le j'aime, j'aime pas. C'est vrai qu'on a raison, on pourrait faire comme ça. Sauf que la dégustation, c'est un moment que vous passez avec vous-même. C'est un moment où vous découvrez des choses dans votre propre, dans vos propres sensations. Et si vous commencez à vous dire « j'aime, j'aime pas », finalement, on est là pour ouvrir des portes en toute tranquillité, en toute sécurité. Et ces portes, on en vient tout seul à se les fermer. Et si on arrivait à sortir de ce schéma de dégustation en disant « j'aime, j'aime pas », parce qu'il sera toujours temps de traiter l'information, en disant « mais c'est quoi cet univers ? Où est-ce qu'il veut aller ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Qu'est-ce que sont ces goûts nouveaux ? Quelle est cette texture nouvelle ? Quelle est cette deuxième vie qu'a ce vin ? Si on rentrait dans le vin pour ce qu'il est, on en apprendrait plus sur lui, mais on en apprendrait plus aussi sur notre propre capacité à appréhender notre propre univers de dégustation, donc à enrichir notre vocabulaire gustatif. Alors, on revient sur le domaine de tout à l'heure, Clos Venturi, Chiesanera. Là, merci beaucoup. Trois cépages, Vermentino, Genovese et Bianco Gentile, qui ont vécu ensemble dans une petite vigne, donc complantée, et qui sont en train de vivre 24 mois dans un petit loft en béton, un œuf béton, de 12 hectos. Et l'idée, c'est qu'on a la colonne vertébrale du Vermentino qui va aller chercher la profondeur, cette complexité des sols. On a le Genovese qui va emmener cette très belle acidité, puis le Bianco Gentile qui va lier l'ensemble, qui va emmener cette onctuosité. Et on a un vin donc qui est totalement construit, qui est un vin merveilleux pour les crustacés, qui est un vin merveilleux pour la langouste rôtie, qui est un vin merveilleux pour un poisson qu'on a en Méditerranée qui s'appelle le Dinti, un poisson qui est très charnu. Et là, pardon, merci, on est sur un Chiesanera blanc 2013, merci Laurent, tu es sur moi qui suis, 13. Ça aussi, on nous l'a volé en cours de route, donc on a été obligé de se... On a fait tout Paris ce matin pour chercher des bouteilles de 2013. Je vous assure que c'est vrai. Quelle désorganisation, surtout, plutôt. Hein ? Un gros litige transport. Mais quand on commence à se faire braquer des vins, ça veut dire qu'on fait des vins de valeur. Donc ça nous va assez bien. C'est un signe des temps. Voilà, donc, j'aime bien faire ces dégustations rouge d'abord, blanc ensuite. Je trouve que les blancs ont la faculté de venir rafraîchir un petit peu les rouges qui peuvent parfois avoir un excès de tanin et venir soulager le palais. Mais on le soulage assez aisément avec ce vin-là puisqu'il est gras, caressant. Je trouve qu'il a à la fois ce qu'on a de bien dans les vins du sud de la France, cette onctuosité, cette dimension, cette construction solaire, et à la fois il emprunte à des terroirs plus au nord cette fraîcheur, cette fermeté, cette rigidité, cette rigueur. Et c'est un peu le meilleur des deux mondes. Moi, chaque fois qu'on veut me piéger, qu'on me met un vin corse à l'aveugle, je me fais toujours avoir, bien sûr, hein, parce que je n'arrive pas à mémoriser leur facétie. Et quand on me met ce type de vin-là, je ne sais pas où partir. Je me dis que c'est bon, c'est un beau flacon qui raconte plein de choses, et je ne sais jamais où partir. Et c'est vrai que quand vous essayez comme ça un blanc avec un petit peu d'âge à l'aveugle, je pense que vous piégez 100% des gens, parce que nous-mêmes, on a du mal à les appréhender avec leur dimension de temps. Voilà, on pourrait penser que les choses vont s'affadir, il y a peu d'acidité, donc on va aller sur des vins qui seront plutôt à la traîne, sans rebond. Et au contraire, le temps, finalement, cette acidité minérale qui remplace l'acidité physiologique qu'on n'a pas naturellement dans nos raisins, va venir donner une seconde vie, une troisième vie à ces vins et leur donner cet éclat assez particulier. Moins le quart, on est bien.
On est bien, même à l'avance.
Est-ce qu'il vous cause un peu ce vin-là ?
Oui, beaucoup celui-là. Magnifique.
Est-ce qu'on a des oppositions dans la salle ? Pas beaucoup ? Qu'est-ce que ça dit, ça ?
Sur le vin ?
Ouais.
Déjà, il a une couleur, moi, je trouve très surprenante pour un vin blanc.
Ouais, une couleur baroque. On le qualifie d'or baroque. Ouais, c'est vrai.
Pour ce qui est d'un goût, c'est vrai que pour un blanc, c'est surprenant. Bien qu'il a une minéralité qui, moi, me ferait dire que j'aimerais bien boire ce vin avec des fruits de mer. C'est vrai qu'il a une rondeur en bouche qui
qui l'imprègne la bouche. Et que c'est vraiment un vin que je trouve plaisant à déguster.
Parfait. Et vous ?
Moi, je le trouve très riche, très frais, beaucoup de fleurs blanches. Pas de tension, un équilibre. Et bizarrement, j'arrive pas à savoir, il y a quelque chose en fin de bouche, il y a une... Mais j'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Un truc un peu bizarre.
Alors,
pas bizarre, mais.
Le Vermentino, il est toujours. Olivier Poussier disait dans les années 2000 que le Vermentino, ce sont les grands amers de gastronomie. On reconnaît le Vermentino à trois choses. Au nez, c'est très riche. En bouche, c'est sec. Et ça finit sur de beaux amers. On est sur un grand terroir. Un des marqueurs d'un grand terroir, ce sont ces amers, ces amers minéraux, qui vont finalement faire toute la fin de bouche. La fin de bouche, elle n'est pas faite sur la vitalité, elle est faite sur les amers. Voilà, c'est un vin qui est clairement construit sur les amers, c'est ce qui va structurer le vin. Alors les amers, dans notre culture française, ce n'est pas ce qu'on aime beaucoup. Le pays d'à côté, la culture italienne, c'est sans les amers, il n'existe pas de cuisine. Les amers, à quoi ça sert en cuisine? Les amers, quand on les appréhende, quand on s'autorise à aimer les amers, c'est ce qui donne l'éclat à toutes les autres saveurs. Et c'est ce qui se passe dans ce vin-là. On a un vin qui est à la fois légèrement acidulé, qui est légèrement salé, un petit peu de magnésium sur la pointe de la langue, qui a cette texture qui ferait presque penser à un vin sucré, la texture. Hein. Et puis, il y a cet amer qui va emporter le tout. Voilà, ce sont des amers. Alors, il y a une plante qui pousse dans ce domaine, qui pousse beaucoup encore, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'immortel. L'immortel, caractéristique aromatique, c'est des notes fumées, des notes de miel, mellifère, des notes un peu de racine. Et quand vous mettez le nez dans ce verre-là, on est là-dedans. On est vraiment sur l'empreinte de l'immortel. Et l'immortel, quand elle est sèche, elle est extrêmement intense. On va faire le trouble. Petit commentaire en attendant le blanc suivant.
Moi, j'étais un peu, je ne vais pas dire que c'est désagréable, c'est l'eau de nez, un truc que je ne m'attends pas à trouver dans un verre.
Ouais.
Moi, je ne retrouve pas du tout quand je le prends en bouche. Qui est beaucoup plus agréable. Et je ne sais pas, c'est de la badiane ou un truc qui est étrange, c'est peut-être la racine.
Oui, il y a une notion de gentiane, de badiane. Vous savez, souvent, moi, les gens me posent la question, ils me disent quand est-ce que le vin est à maturité? Alors, à titre personnel, ce que je vais vous dire n'engage que moi, un vin est à maturité quand le nez est conforme à la bouche. Voilà, quand les deux se rejoignent, une espèce d'harmonie entre les deux. Le Vermentino, quand ça vieillit, ça pétrole. Pétrole, au sens étymologique, c'est notre hydrocarbure. Or, les notes hydrocarbures, elles peuvent venir de deux... elles ont deux raisons de venir là. Soit ce sont des notes, ce qu'on appelle des terpènes d'agrumes, c'est-à-dire, c'est on va dire, pour faire simple, l'huile essentielle de l'agrume. Soit ce sont des notes de pétrole, c'est-à-dire au sens étymologique, pétrole, l'huile de pierre. Donc c'est le minerai dégradé. Donc c'est l'hydrocarbure. Et souvent le Vermentino, qui est la base de ce vin-là, quand ça vieillit, quand ça a une dizaine d'années, ça prend des notes d'hydrocarbure, notes qu'on peut retrouver parfois sur des Riesling en Alsace. Okay ? Alors là, comme il est escorté de deux autres cépages, c'est moins évident. Mais je vous invite à descendre goûter, s'il en a encore, chez Manu Venturi, le 2013 blanc Vermentino. Ça a des accents d'Alsace à telle enseigne qu'on dit du Vermentino que c'est le Riesling de Méditerranée. Donc c'est un cépage qui, comme le Riesling, est capable de lire en totalité les informations d'un sol. Et donc il a le comportement de ce cépage-là qui va lire cette pierre, ce minerai dégradé, qui va retranscrire avec les arômes que vous pouvez notamment retrouver un peu plus sur les vins d'Alsace.
Le Vermentino, c'est du Roll,
c'est de la Malvoisie.
Et Roll, c'est utilisé où en France?
En Provence, essentiellement, notamment à Belley. En fait, le Vermentino, c'est un cépage qui nous vient du Péloponnèse, qui est arrivé dans le bassin méditerranéen il y a 2600 ans, qui a muté. Je veux bien un tout petit peu de... Voilà. Alors, n'oubliez pas de faire ce geste-là. Regardez, mettez votre main à plat, s'il vous plaît. Mettez votre verre dessus et vous chemisez votre verre de l'intérieur de manière à chasser l'empreinte du verre précédent, du vin précédent dans le verre. Alors, cette cuvée s'appelle Taradorasi. Donc, c'est une vigne qui appartient à ma famille, qu'on travaille avec mon papa depuis toujours. Qui est une vigne qui a 160 ans, qui est préphyloxérique, donc qui est plantée en ce qu'on appelle en franc de pied. Donc on n'a pas de porte-greffe. C'est 8 cépages blancs, dont une grande majorité de Vermentino. Moi, ce sont des vins qu'à titre personnel, je n'aime pas beaucoup quand ils sont jeunes. Je les trouve trop lourds. Et quand ça vieillit, ça, Ça, quand ça prend de l'âge, ça prend de la vigueur, ça prend une forme de force qui n'est pas une force qui est basée sur l'acidité, qui n'est pas une force puissante, mais qui est une force très intense. Intense aromatiquement, intense dans la texture, intense dans la profondeur. Voilà, c'est un vin où vous allez traverser le sel, traverser les amers, traverser des notes de très, très mellifères. Et puis, c'est un vin qui va être extrêmement long. Extrêmement long. Sur une longueur un peu particulière, puisque on va osciller entre le fruit, entre les amers, entre la peau du raisin, entre des notes un peu fugaces. On est sur 2012.
On a vraiment ces différentes phases dans la longueur en bouche, on sent quelque chose qui s'éteint.
C'est très graduel, qui reprend et qui... Ah ouais. C'est en fait, chaque cépage renvoie à la vie de l'autre cépage. Et puis une espèce d'articulation, de mouvement pendulaire en bouche. Et c'est un vin qu'on découvre aussi, hein, puisque nous, on a commencé à vinifier ce millésime-là en 2001. Pendant 7 ans, on a tout viré, on a tout jeté, on ne comprenait pas ce vin-là. En fait, on voulait conduire ce vin-là comme on conduirait une automobile moderne, sauf que c'est une vieille automobile qui ne se conduit pas du tout de la même manière. Et on a mis très longtemps à comprendre comment est-ce qu'on pouvait le construire. Quand on mettait le nez au-dessus de la cuve, pendant les premières années, c'était de la flotte. On mettait là... Le vin était... Il n'y avait rien, c'était de l'eau, il n'y avait pas de texture. Il a fallu qu'on comprenne qu'il fallait l'élever longtemps, qu'il fallait lui donner du temps, qu'il fallait lui parler dans une langue un peu différente pour qu'on ait ce vin qui se constitue. Ça a été, pour nous, ça a été une série de coups de pied au cul, de remise en question. On est arrivé finalement avec des réflexes d'homme moderne, avec une dame qui était ancienne. Et donc c'est un comportement en bouche qui n'est pas le comportement des vins blancs qu'on a l'habitude de goûter, qui a un rythme particulier, une architecture particulière, un goût particulier. Et de ce vin-là, j'ai oublié de vous préciser qu'il s'en fait que 500 bouteilles. On fait 500 bouteilles de blanc et 500 bouteilles de rouge. Alors bien évidemment, ce sont des bouteilles qui sont malheureusement introuvables. Mais je trouvais sympa de vous les présenter, parce que si on ne présente pas des bouteilles comme ça dans un cadre comme aujourd'hui, ça serait dommage. Et ce vin-là, on va juste enchaîner. S'il vous plaît, on va juste enchaîner sur le muscat, si vous voulez bien. Et ce vin-là, il a cette capacité à nous montrer que dans un temps plus ancien, quand on voulait composer les vins, aujourd'hui, ça y est, une question qui est en pointillé, c'est le réchauffement climatique. Quand on voulait composer les vins, on s'intéressait d'abord au matériel végétal et on s'intéressait à une population d'individus qui allaient travailler ensemble au service d'une seule communauté. La communauté, c'est l'équilibre. D'accord ? On est dans une vigne qui est taillée en gobelet. Donc on va protéger ce gobelet, donc c'est une vigne qui va créer un parasol, qui va protéger le raisin, qui va garder l'humidité du sol, dans la transpiration du sol. Et c'est finalement chaque individu qui va participer à l'œuvre d'ensemble. Et la Méditerranée, c'est ça. La Méditerranée, c'est une construction collective au sujet d'un but commun. Et on revient aujourd'hui en Corse, mais pas qu'en Corse, on revient en Méditerranée, à ces vignes complantées, où on va faire finalement travailler une population d'individus différents au service d'une même cause. Et souvent, l'équilibre, la notion d'équilibre, elle va venir de cette concertation collective. Alors ça nous change un petit peu, à nous qui avons parfois une dimension individualiste dans notre manière de vivre nos vies, de dire que finalement, l'harmonie, l'apaisement, l'équilibre, viennent d'un travail et d'une œuvre collective. Dernier blanc qui nous est proposé, c'est un blanc sucré d'un muscat petit grain. On est dans le domaine Pieretti, millésime 2012. On est dans le Cap Corse. On est tout en haut de l'île sur des schistes. Domaine Pieretti. Alors, pourquoi ce vin est carafé? Tout simplement parce qu'on a pété les bouchons, on n'avait pas de bilame et on a fait ça un peu à la hussarde, on a enfoncé le bouchon. Et on s'est débrouillé pour que vous puissiez quand même goûter ce muscat qui est magnifique. Et du coup, on oublie que le muscat, c'est un vin de mutage. Donc c'est un vin, on va stopper la fermentation en y ajoutant un petit peu d'eau de vie. Alors normalement, légalement, c'est une eau de vie de mutage. D'un point de vue réel, c'est l'eau de vie qu'a fait le vigneron. Et cette eau de vie, plus le sucre, va bouffer le bouchon. Donc sur les vins comme ça de mutage, il convient parfois, de temps en temps, de faire une petite révision du bouchon et de le changer. Alors là, c'est intervenu un peu plus tôt que prévu, mais c'est arrivé sur les deux bouteilles, donc je me dis que ce n'est pas un hasard, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on dise à la vigneronne qu'il faut peut-être faire un petit truc. Les vins sucrés en Corse, ça a été la première chose qu'on a exportée dans le temps. On a gagné plein de prix au 18e et 19e siècle. On a perdu un peu, comme partout, la culture des grands muscats, des grands liquoreux. En 1840, dans le port de New York, on trouve trace chaque année de plus de l'équivalent de 100 000 bouteilles d'un vin qui s'appelle Vin d'Espagne, vin d'Espagne, donc un vin sucré, qui est importé de la Corse. Alors pas par les Corses, mais par des marchands essentiellement anglais ou hollandais. On a toujours été de grands producteurs, mais de piètres commerçants. Et c'est ce qui a fait la réputation des vins corses, ça a été ces vins liquoreux, qu'ils soient blancs ou rouges d'ailleurs. Merci. Et on se bat au quotidien pour montrer que, voilà, qu'un grand liquoreux, oui, c'est sucré, mais c'est salé, c'est acide, c'est amer. Antoine, tu parlais tout à l'heure d'umami. Les muscats, c'est aussi une des facettes de l'umami en Corse, où on a vraiment les quatre saveurs. Et le muscat, c'est cette capacité à emprisonner les agrumes. La Corse est une terre d'agrumes, le cédra, la clémentine, la mandarine, l'orange amer, la bergamote, le citron vert, l'orange confite.
Hein ?
Ouais, c'est un voyage. Ouais. Si vous faites attention sur la pointe de la langue, votre vin il démarre salé, acidulé, sucré, amer, et puis ça revient, et puis on rejoue la partition à nouveau. Et oui, le vin il se construit comme ça, comme une mécanique d'horlogerie, et des choses qui reviennent, une forme de rémanence en bouche. Et l'impression que ça vous laisse à la fin, c'est pas le sucre. L'impression de finale, c'est l'orange confite, l'amertume, le sel sur la pointe de la langue, l'acidité. Et puis, une forme de voyage un peu inconnu en se disant, mais finalement, ça a l'air sucré, ça ressemble à du sucre, mais il y a plein d'autres choses qui vont escorter le sucre. Et c'est dommage que, en France, en général, on ait perdu la culture de ces vins liquoreux qui sont chargés de tellement de goût, de tellement d'horizons. Ça ouvre plein de portes, des vins comme ça.
C'est qui fait ça ?
Domaine Pierretti. C'est une dame, c'est une femme, elle s'appelle Lina. Et on est dans Cap Corse. Donc Cap Corse, Patrimoniaux, ce sont deux régions qui sont... Ces deux appellations... Qui reçoivent en fait une appellation qui est à cheval sur ces deux zones, c'est muscat du Cap Corse. Et le Cap Corse était vraiment une terre de ces muscats sur schiste, des muscats extrêmement énergiques, avec une grande vitalité, mais ils se faisaient des liquoreux partout en Corse. Alors c'est un 2012. Qui pourrait m'aider sur un accord là-dessus ?
C'est ce que je demandais.
Hein ? Ok. Un magret à l'orange. Peut-être ou pas. Hein? Ok. Alors moi, un vin comme ça, il s'accorde avec un feu de cheminée. Il s'accorde à 11h du soir quand je ne sais pas quoi boire et que j'ai envie de me vider la tête. J'ai beaucoup de mal à accorder. Alors moi, j'ai personnellement, pour ça que je vous demande votre aide, j'ai beaucoup de mal à accompagner un muscat. Alors on peut trouver tout type d'accord classique, mais j'ai beaucoup de mal à accorder un muscat. Pour moi, un muscat, c'est un vin qui est suffisant. C'est un vin qui raconte tellement de choses. Il y a tellement de portes dans un vin comme ça qu'un feu de cheminée, un canapé, des amis, une longue discussion, un peu de philosophie, ça suffirait pour accorder. Mais la porte est ouverte. Qu'est-ce que vous avez dit ?
Sur un dessert à base d'agrumes.
Ah oui, la salade. Ouais, il y a une salade qu'on fait en Corse qui est une salade à base d'orange, safran, eau de vie, sucre.
salade qui marche assez bien. Voilà. Des châtaignes grillées, pourquoi pas. Et des amis, surtout, c'est important. Il est 17h, il est temps de rentrer chez vous. Je vous remercie, mais si vous avez envie de rester 2-3 minutes en compagnie de ce joli vin, on va s'autoriser ces 3 minutes, on ne dira rien à David qui nous accueille, on fera ça en silence, dans la paix la plus totale, et je vous remercie beaucoup de votre écoute.